Catherine Chalier, vous êtes philosophe et dans la philosophie, il y a, il me semble, dans votre parcours, un personnage central qui est Emmanuel Lévinas. Comment avez-vous trouvé ou comment Emmanuel Lévinas vous a-t-il trouvé et quel est son apport dans votre vie, dans votre parcours, dans votre trajectoire de philosophie ?
Cet apport est tout à fait essentiel et en fait, j'ai commencé à lire son œuvre très tôt, à la fin de mon année de terminale, c'est-à-dire à 17 ans, grâce à mon professeur de philosophie de l'époque, Elisabeth de Fontenay, qui m'avait conseillé de lire Totalité et Infini pendant les vacances. C'est un peu comme des rencontres très profondes, le pressentiment que ce qu'il disait correspondait à ce que je cherchais de façon bien sûr obscure et à tâtons à cet âge-là. Et donc cette œuvre m'a tout de suite beaucoup marquée, et en particulier le lien entre la philosophie, c'est-à-dire l'exigence de la clarté, l'exigence de l'explication raisonnée, et en même temps une écriture qui était aussi une écriture marquée par une certaine poésie, par un certain usage des métaphores et la présence de la source juive qui, déjà à l'époque de mes 17 ans, m'intéressait beaucoup parce que à 17 ans, j'avais commencé à lire la Bible dans la perspective juive.
Est-ce que Emmanuel Lévinas va être pour vous le point de contact qui va vous faire entrer plus profondément dans le judaïsme ?
Pas en tant que personne, mais plutôt par des lectures personnelles. Je cherchais ce que signifie pour un être humain, mais en tous les cas pour moi en particulier. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Les textes juifs que je lisais en français à l'époque me parlaient profondément. Et il me semble que, conjointement à cela, la lecture de Lévinas me conduisait aussi à une certaine rigueur. Je dirais aussi que c'est une œuvre qui est marquée par la tragédie terrifiante de la Shoah, mais ce n'est pas une œuvre désespérée. Et au fond, si je regarde les choses de façon a posteriori, à travers les différents écrits que j'ai pu faire, et ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment tenir à la fois l'affrontement au mal, personnel bien sûr, la souffrance personnelle, mais la souffrance du monde, et puis l'espoir. Garder les deux ensemble, pas d'une façon naïve, pas en faisant semblant que le mal n'existe pas. Or, je crois que cette œuvre-là répond à ça, par une exigence très grande vis-à-vis de soi-même, au fond qui me semble la seule réponse possible, qui seule peut conduire à un monde plus juste et dans lequel la souffrance des êtres humains soit prise en compte et possiblement apaisée.
Justement, vous avez écrit un livre sur l'espoir. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ?
J'ai essayé de réfléchir à ce que signifiait l'espoir d'un point de vue intérieur. Qu'est-ce qu'une attitude d'espoir intérieurement pour une personne ? Non pas espérer ceci ou cela, un succès, une rencontre amoureuse, le bonheur. Donc essayer de déconnecter par rapport à l'imagination que l'on a de quelque chose qui s'ajusterait à notre attente, je ne pense pas que l'espoir c'est ça. Et donc essayer de voir ce que l'espoir suscite en nous comme attitude subjective par rapport à la réalité. Et donc cette attitude subjective, j'essaye de la décrire, mais j'essaye aussi de réfléchir à ce sur quoi elle est fondée. Or, elle est fondée sur la promesse de Dieu. C'est la promesse qui donne la force d'espérer quand autour de soi, la souffrance et le mal semblent gagner. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que ce soit facile, parce qu'il s'agit toujours de retrouver en soi ce fil de vie qui est lié à la promesse, c'est-à-dire à la parole donnée aux hommes, à un bien qui est antérieur au mal et qui est souvent effacé par lui, mais qui n'a pas disparu, mais qui est parfois somnolent, et puis peut-être on crois qu'il n'existe plus. Et donc je crois que c'est ça, espérer, c'est veiller sur ce point de vie en nous, sur ce bien qui est en nous, essayer d'en retrouver le chemin lorsque l'on l'a perdu, et essayer si possible aussi de le faire découvrir à d'autres et de le transmettre.
Il y a parmi vos nombreux ouvrages un livre sur le désir de conversion, dans lequel vous parlez de grandes figures, Ethil Soum, Thomas Merton, Frank Rosenzweig. Quel est le dénominateur commun de ces personnes? Et aussi ce livre que vous avez écrit sur ce rabbin, le rabbin qui a tenu des homélies dans le ghetto de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ça c'est le rabbin Kalaninus Kalman Shapiro. Ce rabbin s'est trouvé captif dans le ghetto de Varsovie. Et puis, il a continué à donner des homélies à ceux qui l'entouraient. Et on voit toute une évolution dans son parcours, parce qu'au départ, il a une conception un peu classique et simple. Si nous souffrons, c'est que sans doute nous avons péché, etc. Et puis après, il renonce à cette théologie et à la vision de Dieu qui est liée donc à une telle pensée. Mais en même temps, jamais il ne renonce à transmettre à ceux qui l'entourent des paroles de Torah pour que, au moins, ils ne meurent pas en ayant oublié ces paroles et que leur âme ne soit éteinte avant même qu'ils soient conduits à mort. Et c'est très émouvant, c'est très beau. Et ce qui me semble très profond et qui est aussi un point commun avec les autres personnes que vous avez citées, c'est que du fin fond de la souffrance, et ça c'est peut-être un secret pour chacun d'entre nous, il continue de s'adresser à Dieu, à un Dieu qu'il ne comprend pas, mais un Dieu, dit-il, et ça je trouve ça très très profond, un Dieu qui sans doute lui donne la force de souffrir. Il dit à un moment donné, nous ne pourrions pas souffrir autant si tu n'étais pas avec nous. Et là, donc, c'est cette présence de Dieu au plus intime de la souffrance humaine, et ce qu'il essaye de transmettre jusqu'au bout, c'est vraiment un parcours très bouleversant. Pour en revenir au livre sur le désir de conversion et aux personnes que vous avez citées, moi, ce qui me semble marquer une parenté entre ces personnes, c'est une quête très profonde de Dieu, justement dans un monde qui semble déserté par la présence de Dieu. Comment chercher Dieu dans un monde qui semble déserté par la présence de Dieu? Et Rosenzweig, qui lui a vécu la Première Guerre mondiale dans les tranchées, dit sur la scène vide de l'histoire, c'est-à-dire il n'y a pas de présence de Dieu dans l'histoire selon lui, tu nous as parlé. Ethil Soum aussi, elle qui se trouve donc dans le camp de Westerbork et qui ne se fait pas d'illusions sur ce qui va l'attendre. Et Thomas Merton, lui aussi par rapport à la Première Guerre mondiale et aussi par rapport à un monde de profond déchirement. Donc les portraits que je dessine dans ce livre sont des portraits de cinq figures et d'une quête de Dieu dans un monde qui semble déserté par sa présence et livré à la violence humaine d'une façon absolument sidérante, et donc où on aurait plutôt tendance à penser que le monde est revenu au tohu-bohu. Or, qu'est-ce qui fait sortir le monde du tohu-bohu? C'est la parole. Cette quête de Dieu dans un monde qui est marqué par tant de mal, tant de malheur, et pourtant elle reste. Et donc, la tentation, c'est le désespoir. La tentation, c'est la tristesse, c'est l'abandon à la neurasthénie, au nihilisme. Ça, disent les sages juifs, attention, c'est la présence en vous-même du mauvais penchant, c'est-à-dire de votre propre tentation aussi. Et lutter contre ça en soi-même, peut-être certaines personnes ont moins lutté contre ça que d'autres, je ne sais pas, mais lutter contre ça en soi-même quand on a un tout petit peu conscience de l'état du monde et aussi de la souffrance autour de soi, c'est une grande difficulté, bien sûr. Mais qu'est-ce qui sauve? C'est cette adresse à Dieu, cet appel, non pas, comme dit Rabbi Kalaninus Shapiro, pour qu'il nous sauve de la situation, il sait très bien que non, Ethil Soum aussi, et l'un et l'autre disent à leur façon, ce n'est pas à toi de nous aider, c'est à nous de t'aider, c'est-à-dire à faire en sorte que justement ta présence en nous ne disparaisse pas, et que tu nous donnes aussi la force de traverser ces ténèbres qui sont les nôtres. Dans la tradition racidique, il y a un commentaire d'une phrase « En ton salut, j'espère ». Or, la tradition racidique commente ainsi « En ton salut, à toi, j'espère ». C'est-à-dire, j'espère que ta présence en nous, justement, nous n'allons pas la laisser périr. Et donc, c'est pas « J'espère que tu vas venir m'aider », mais En ton salut à toi, j'espère que je pourrai continuer à porter ta vie en nous et à éclairer grâce à elle autour de moi.